Le journal, Sarah Massy.
Bonsoir, une louve a mis bas cette année dans le canton de Neuchâtel. Elle a donné naissance à 6 louveteaux dans la région de la Brévine. Une première depuis que l'animal a de nouveau été observé dans la région en 2022. Veillez à ce que le Francfort ne poursuive pas son renforcement. Face au potentiel droit de douane de 39% sur les produits helvétiques aux États-Unis, il faut éviter la double peine selon le professeur d'économie territoriale à l'université de Neuchâtel, Olivier Crevoisier. Un nouveau club de kinball pour bouger et s'amuser. Valkin existe depuis quelques mois au Val de Travers. Il réunit aujourd'hui une dizaine de personnes. C'est un temps bien ensoleillé avec quelques voiles d'altitude que les spécialistes prévoient demain. Les températures s'annoncent estivales l'après-midi. Elles seront comprises entre 26 et 30 degrés. Six louveteaux sont nés cette année dans le canton de Neuchâtel. C'est la première fois qu'une louve donne naissance à des bébés dans le secteur depuis 2022. La meute a été observée dans la région de la Brévine au mois de juillet. C'est d'abord la mère qui a été repérée par les gardes-faunes du canton. 4 puis 6 petits ont ensuite été découverts. Pour le moment, les jeunes ne se déplacent pas beaucoup et n'accompagnent pas encore leurs parents. Le service de la faune estime que la meute se nourrit actuellement essentiellement de chevreuil. Sa présence confirme la progression du loup vers la partie est du Jura. Et l'arrivée d'une nouvelle meute sur sol neuchâtelois n'est pas exclue. Christophe Noël, chef du service cantonal de la faune, des forêts et de la nature.
C'est ce qu'on devra documenter ces prochains mois. Donc on a déjà commencé ce travail. Donc l'objectif maintenant, c'est effectivement de clairement documenter le territoire qu'elle occupe par rapport, justement par rapport à la meute de Jounes-Suchet, qui elle se trouve plus à l'ouest. Il n'est pas exclu que cette nouvelle meute également déborde au nord sur le territoire français. Donc en collaboration avec les autorités françaises, donc on prévoit maintenant de mieux documenter sa répartition quelque part sur le territoire.
Pourquoi c'est si important de savoir comment elles se comportent, ces meutes, où elles se situent? Si elles restent dans le canton, si elles partent, si elles reviennent.
C'est déjà très très important par rapport à la question de la protection des troupeaux, donc pour pouvoir correctement informer les éleveurs de la région, également correctement informer le grand public quelque part par rapport à cette présence. Et puis c'est également important pour la gestion de l'espèce parce que clairement, il faut qu'on ait connaissance du territoire de la meute pour qu'on puisse éventuellement, si on devait avoir des dommages, intervenir sur cette meute.
Mais est-ce que ça veut dire que d'autres risquent de s'installer dans le canton de Neuchâtel, voire plus à l'est? Vous parlez d'une tendance?
Oui, alors effectivement, c'est clairement, après il faudra voir si ça se confirme, mais maintenant on voit la progression vers l'est et il est bien évidemment pas exclu que d'autres meutes s'établissent plus à l'est que celle qui vient d'être créée.
La meute neuchâteloise est la 6e documentée dans l'arc jurassien. Avec des droits de douane à 39%, l'arc jurassien va particulièrement souffrir. C'est ce qu'affirme Olivier Crevoisier, professeur d'économie territoriale à l'université de Neuchâtel, alors que Karine Keller-Souter et Guy Parmelin négocient en ce moment à Washington avec les États-Unis pour diminuer les taxes sur les produits suisses voulus par Donald Trump. L'inquiétude est forte pour l'économie de la région. Un taux de 39% aurait pour conséquence de faire augmenter le chômage, diminuer le revenu des entreprises et donc des collectivités publiques. Si les États-Unis maintiennent ces droits de douane élevés, quelles mesures pourraient être prises par la Confédération pour limiter les dégâts? La réponse d'Olivier Crevoisier.
Si les États-Unis semblent prendre la direction d'une instauration de rapports de force différents dans le cadre des marchés internationaux, alors là, bien sûr, c'est plus difficile. Une première mesure, ça pourrait être, en tout cas, de veiller à ce que le franc suisse ne poursuive pas son renforcement au cours des mois et des années qui viennent, parce que ça, ce serait vraiment la double peine pour l'industrie. C'est-à-dire que ça viendrait s'ajouter à la question de ces droits de douane tout à fait massifs qui sont imposés aux exportations suisses, et ça ne ferait vraiment qu'empirer le dégât. Le problème, c'est que la Banque nationale suisse n'a plus tellement de marge de manœuvre de ce point de vue-là, mais c'est une mesure qui me paraîtrait tout à fait indispensable.
Vers quoi finalement les États-Unis veulent aller avec ce genre de décision?
Alors ça, c'est la grande inconnue et c'est le grand problème. On voit bien que M. Trump, je ne sais pas s'il faut dire les États-Unis ou M. Trump souhaite de toute évidence remettre en cause les règles du commerce international telles qu'elles ont été définies dans les années 80 et 90. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas du tout vers quoi il souhaite aller. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu un joueur de poker, et que chaque fois qu'il redistribue les cartes, eh bien, il redéfinit les règles. On n'a plus d'amis, on n'a plus d'alliés, on n'a plus d'ennemis, et on change les principes finalement sans cesse, en fonction de ses intérêts à très court terme. Donc, je dirais que ça, c'est difficile à gérer, puisque l'industrie et l'économie en général, eh bien, ont besoin d'une certaine stabilité, d'une certaine vision, disons, à moyen-long terme, qui permettent les investissements.
Olivier Crevoisier, professeur d'économie territoriale à l'Université de Neuchâtel, était au téléphone de Jean-Paul Pitchy. La loi sur l'identité électronique ne donne pas assez de garanties, c'est ce qu'estiment les opposants. Le peuple est appelé à voter sur ce nouveau concept d'ID le 28 septembre. Le comité référendaire a présenté ses arguments aujourd'hui à Berne. Il est composé d'anciens membres du Parti Pirate, des jeunes UDC, de l'Union démocratique fédérale et des amis de la Constitution. Les opposants trouvent que les données des utilisateurs ne sont pas assez protégées. Les grandes entreprises de la tech pourraient les exploiter à des fins commerciales. Et la loi manque de transparence, elle prévoit de publier le code source de l'infrastructure EID, mais avec une exception, souligne Jonas Sulzer, membre du comité référendaire.
Si je demandais une EID, je veux faire ça par Internet. La loi prévoit une vérification automatique. Moi, je vais devoir scanner mon visage, faire une vidéo de mon visage avec mon téléphone et également de mon passeport ou ma carte d'identité physique. Justement, cette partie-là qui déjà utilise une technologie où on n'a pas de garantie vraiment sur la sécurité, parce que est-ce que la technologie pour faire des fakes de ce genre de vidéos, c'est ce qui est possible avec des algorithmes de machine learning, d'IA, on n'a jamais une garantie. Et justement, cette partie-là est gardée confidentielle et on n'a donc pas de moyen de la vérifier à quel point elle est sécurisée ou non.
Des propos recueillis par Marie Biumier, la nouvelle loi prévoit une identité électronique facultative et gérée par la Confédération. Le peuple se prononce le 28 septembre. Le Festival de Locarno ouvre ses portes ce soir pour sa 78e édition. Les actrices Emma Thompson et Lucy Liu sont invitées d'honneur, ainsi que Jackie Chan. 18 films sont en compétition pour le Léopard d'Or, parmi eux Le Lac, du réalisateur neuchâtelois Fabrice Aragno, un film qui a beaucoup ému le directeur artistique du festival, Giona Nazzaro.
C'est l'histoire d'une couple qui se promène en bateau sur le lac Léman. Et c'est un film qui réfléchit à ce que c'est un couple, c'est ce que c'est l'amour. C'est un film comme une poésie romantique de Novalis, à mon avis. C'est comme une musique de Mozart. C'est un véritable coup de maître d'un grand talent visuel, d'un grand poète de l'image cinématographique.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Cette édition du Festival de Locarno prévoit aussi la projection pour la première fois d'une série sur la Piazza Grande de Dille du réalisateur lausannois Jean-Stéphane Bron. Le festival se tient jusqu'au 16 août. Rome donne son feu vert au plus long pont suspendu au monde. L'ouvrage, qui est controversé, doit relier la Sicile au continent pour un coût de 13,5 milliards d'euros et une longueur de 3,3 km. Le pont devrait être terminé en 2032. Dans une atmosphère âcre et suffocante, le plus gros incendie de l'été en France fait rage dans le sud du pays. Il a déjà dévasté plus de 16 000 hectares de végétation en 24 heures et fait un mort et plus d'une dizaine de blessés. L'incendie se dirige vers le sud-est et le littoral méditerranéen. Face à l'ampleur du feu, l'Union européenne s'est dit prête à mobiliser des moyens si nécessaire. Menacée hier soir et dans la nuit par la progression de l'incendie, l'autoroute A9 entre la France et l'Espagne a pu rouvrir en début d'après-midi. Apple va augmenter de 100 milliards de dollars ses investissements prévus aux États-Unis. Ils se monteront à 600 milliards sur 4 ans, selon un haut responsable de la Maison-Blanche qui confirmait des informations de presse. Il s'agit pour Apple d'amadouer Donald Trump et d'échapper aux tarifs chinois.
RTN, 18h09.
RTN, sport.
C'est confirmé, Arden Yazaki rejouera bien au Milan AC la saison prochaine. Le milieu de terrain helvétique quitte la Belgique et Bruges pour rejoindre la Serie A. Le club de football italien va débourser 39 millions d'euros pour l'enrôler. Il s'agit du troisième transfert le plus cher pour un joueur helvétique. Arden Yashari a signé un contrat de 5 ans avec la formation lombarde et puis un autre joueur suisse devrait rejoindre l'AC Milan en la personne de Zakaria Tekame, l'ancien latéral de Neuchâtel Xamax. D'après Corner Magazine, un accord avec Young Boys a été trouvé. Le transfert est estimé à environ 9 millions d'euros. Et c'est un joli coup sur le mercato pour le HC Université, Neuchâtel Université. Le club de première ligue de hockey sur glace annonce aujourd'hui l'arrivée de Virgile Thévaux. Formé au Lausanne HC, il évoluait sous les couleurs du HC Viège la saison dernière. Auparavant, le joueur de 25 ans a disputé plusieurs saisons en Swiss League avec les équipes de Martigny, Winterthur et Ticino Rockets. Virgile Thévaux a signé un contrat de 2 ans avec le club neuchâtelois. Valkin, nouveau venu au Val de Travers, le club de Kinball qui a récemment été créé, fait partie de la FSG Couvet. Dans ce sport, on ne doit pas laisser tomber le ballon d'1,20 m de diamètre toucher le sol. André van der Wecken est passionné de Kinball depuis plusieurs années, ce qui lui a donné l'idée de créer un club à Couvet. Aujourd'hui, après seulement quelques mois d'existence, Valkin réunit une dizaine de personnes. André van der Wecken.
Il y a des personnes qui viennent essayer, ils partent, ils reviennent. Pour le moment, on ne met pas de pression. On attend septembre. On se retrouve généralement entre 5 et 10 personnes.
C'est important pour vous de garder cette liberté d'action pour les gens.
On a tellement d'obligations déjà dans notre vie au quotidien. J'ai l'image de dire comme ça, le Kinball, il est là pour nous. Et ce n'est pas l'inverse. Non, le Kinball, il est là pour nous distraire, pour souder des liens, pour bouger, pour améliorer notre santé, pour rigoler. Nous, on n'est pas là pour se stresser, pour jouer au Kinball. Non, c'est l'inverse.
Dans le futur, les objectifs pour votre club, c'est quoi?
Bien être ensemble autour du Kinball, s'amuser, faire des performances pour ceux qui veulent faire des performances, s'amuser un jeudi soir à plusieurs pour ceux qui veulent s'amuser, bouger. Vraiment, c'est ça notre but, hein.
Des propos recueillis par Yannick Catin. Les entraînements de Valkin ont lieu tous les jeudis à 19h à l'espace Val à Couvet. Plus d'informations sur rtn.ch. Très belle soirée à toutes et à tous.
RTN Sport.